c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Vous pouvez le consulter à tout moment. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour, Béatrix.
Bonjour, Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommet de cette semaine, nous allons vous parler de l'actualité très chargée d'Équateur avec les narcotrafics. En Argentine, le gouvernement de Milei qui fait des dégâts. Au Mexique, bien à l'approche des élections présidentielles, il y a beaucoup de violence. L'Amazonie, ce n'est pas que le Brésil. Et nous allons parler aussi de littérature. Mais je laisse la parole à Béatrice pour vous parler de l'Équateur.
Oui, des juges et des hommes politiques arrêtés pour des liens avec le narcotrafic. 12 personnes, dont des magistrats et un ancien député, ont été arrêtées début mois de mars dans le cadre d'une purge de fonctionnaires soupçonnés d'être liés au trafic de drogue, a annoncé le bureau de la procureure générale Diana Salazar. Selon un comité officiel, la police a perquisitionné les domiciles et les bureaux d'un ancien parlementaire, de l'ex-président d'un tribunal de la province de Guayas, dans le sud-ouest, de 8 juges de ce même tribunal et de fonctionnaires de la province. L'opération a eu lieu dans cette même province, côtière du Pacifique, l'une des plus touchées par le narcotrafic. 2 armes à feu, des montres de luxe et des milliers de dollars en espèces ont été découverts au domicile de l'ancien député Pablo Montes, membre du Parti socialiste chrétien, qui figure parmi les personnes arrêtées, a précisé le bureau de la procureure générale Diana Salazar. Cette affaire est un exemple de la manière dont la corruption générée depuis les plus hautes sphères de la politique locale a gangréné l'administration de la justice dans l'une des provinces les plus importantes du pays. Des dizaines de juges, d'hommes politiques, de procureurs, de policiers, un ancien directeur de prison ont été accusés d'avoir accordé des faveurs à des gangsters en échange d'argent, d'appartements, d'or et d'autres biens luxueux.
Voilà, musique de l'Argentine. Justement, nous allons parler de l'Argentine avec une agence de presse fermée par le gouvernement de Milei, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, il s'agit de l'agence de presse publique TELAM. Le gouvernement a suspendu pour une semaine les activités de l'agence de presse publique TELAM, que le président Javier Milei a qualifié d'organe de propagande. En plus des lourdes barrières métalliques installées dans la nuit, des agents de la police en faction interdisent l'accès aux locaux de l'agence à Buenos Aires. Devant le bâtiment, des centaines de personnes sont venues dénoncer une atteinte brutale à la liberté de la presse de la part du gouvernement de Javier Milei. Depuis lundi, le site web de l'agence et son service de dépêche sont hors service. Jamais je n'ai vu une chose pareille, s'étonne Hernán Campagnello, journaliste et secrétaire de rédaction à Telam. Hernán et les 700 employés de Telam ont appris qu'ils étaient dispensés de travailler pendant une semaine, le temps que le gouvernement définisse le plan de fermeture de l'agence. En février, le gouvernement de Milei avait fait savoir qu'il comptait modifier la structure organique et fonctionnelle de tous les médias publics, dont Telam, la radio et la télévision nationale. Fondée en 1945 par l'ancien président Juan Perón, l'agence qui emploie plus de 700 personnes est le premier organe de presse à subir les affres du président Milei, signale l'agence France Presse.
Et maintenant, nous allons parler, Béatrix, du Mexique, la violence.
Il s'agit de la violence qui s'immisce dans la campagne présidentielle. Deux semaines auront suffi pour que le thème de l'insécurité enflamme la campagne présidentielle mexicaine, qui a débuté le 1er mars pour un scrutin prévu le 2 juin prochain. Présidents, candidats, églises catholiques, mouvements sociaux se sont prononcés sur cette question face à une actualité violente qui ne connaît pas de trêve. 22 personnes, des candidats à des postes locaux pour le scrutin de juin, ont été tuées. La plupart des morts concernant les maires qui délivrent des autorisations sur la terre ou les transports, cruciales pour le crime organisé, expliquait Arturo Espinosa, directeur de Laboratorio Electoral. L'opposition et sa candidate Xochitl Galvez ont construit la rhétorique de la campagne sur le thème de l'insécurité, proposant une politique de main de fer contre le supposé laxisme du président AMLO, qui en fait s'appelle Andrés Manuel López Obrador. La candidate Claudia Sheinbaum met en avant son bilan à la tête de la ville de Mexico 2018-2023, où l'insécurité a baissé en promettant de reproduire ses recettes au niveau fédéral.
Oui, n'oublions pas qu'il y a donc des femmes candidate à la présidence, qui auront, les élections auront lieu le premier dimanche de juin. Voilà. Donc, c'est pour cela que c'est intéressant de savoir. Une représente un peu la suite du gouvernement de AMLO, Andrés Manuel López Obrador, et l'autre représente un peu la droite.
Thank you.
Vous êtes venu écouter l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord. Et maintenant, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous, et partout dans le monde, sur l'Amazonie, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, l'Amazonie qui est le poumon. L'Amazonie, ce n'est pas que le Brésil, d'après l'archéologue spécialiste de l'Amazonie, Stéphane Rostin. L'Amazonie, la plus grande forêt tropicale du monde, ne se limite pas au Brésil, contrairement à une idée commune. Ce sont près de 7 millions de kilomètres carrés qui s'étendent sur 9 pays, chacun avec ses spécificités. L'Amazonie, ce n'est pas que le Brésil. Du côté andin, il y a la Bolivie, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Au bord de l'océan Atlantique, on trouve le Venezuela, la Guyana et la Guyane française. L'Amazonie ne se limite pas à sa nature ou à son agriculture. Elle possède également une histoire humaine longue de 13 000 ans, avec des développements culturels que l'on se plaît à ignorer. Il a fallu attendre juillet 2018 pour l'inscription de l'Amazonie au patrimoine mondial de l'humanité. Le parc et les peintures rupestres de Chiribiquete, en Colombie. Le 18 septembre 2023, le juriste de Guyane, Alexis Tiuca, déplorait qu'Emmanuel Macron ait annulé sa participation au sommet sur l'Amazonie. On aimerait penser que le président français tiendra ses promesses lors de son déplacement au Brésil et reconnaîtra les droits dont les autochtones ont été spoliés depuis 500 ans sur le territoire national de Guyane. Il serait temps de concilier législation républicaine et droit coutumier.
Oui, on peut aussi ajouter que l'Amazonie, c'est aussi la Guyane, n'est-ce pas?
Oui.
Peut-être n'a-t-on pas prévenu le président, mais en 2024, l'Association des Amérindiens de Guyane française, créée en 1981, fête les 40 ans du rassemblement de quelques 1500 autochtones dans le village Kalina à Yalimapo. Voilà donc, et malgré cette requête ancienne, donc, l'État persiste à braquebouler tout particularisme juridique spécifique sous le couvert du principe d'indivisibilité de la République. C'est compliqué la division, n'est-ce pas, avec la France. Je crois qu'il y a certains qui voudraient l'indépendance de la Guyane française. Mais c'est pour cela que nous allons encore écouter un peu de la musique. Sur les ondes de Radio Libre en Périgord, l'autre Amérique, nous allons vous parler de littérature de ces continents latino-américains.
Oui, de Garcia Marquez, l'écrivain colombien mort en 2014, travaillait depuis 15 ans à un livre d'amour. Un inédit paraît emblématique de l'univers du maître. À l'occasion de l'anniversaire de sa mort à 87 ans, les éditions Grasset publient un court roman inédit, Nous nous verrons en août, autour d'une même protagoniste et mettant en scène des histoires d'amour de gens âgés. Ce récit haletant permet de se replonger dans l'atmosphère unique de Garcia Marquez et d'y retrouver bon nombre des thèmes qui l'obsédaient. Alors tout d'abord, vieillesse. La personnalité charismatique et haute en couleur de sa propre grand-mère a-t-elle donné à Gabo, c'est le surnom qu'on lui donnait, l'idée de mettre des vieux au cœur de ses histoires. Par leur côté souvent truculent et désinhibé, ils lui fournissent des ressources burlesques insoupçonnées. Ensuite, l'imagination. Garcia Marquez a 2 ans lorsque ses parents le confient aux bons soins de ses grands-parents. Son grand-père, ancien militaire et conteur hors pair, et sa grand-mère d'origine indienne, qui lui transmet son goût du merveilleux. Difficile d'imaginer un milieu plus foisonnant en esprit démon revenant. Mais si la folle du logis règne en maîtresse sur la jeunesse du futur écrivain, elle ne suffit pas à elle seule à expliquer ce qui lui importera le plus au monde, le processus de création.
Voilà, et depuis quelques semaines, nous savions que les héritiers avaient tout préparé pour éditer les romans inachevés, dont désormais il est déjà en librairie dans le monde entier. Son titre en français, comme tu viens de dire, Béatrix, nous verrons en août. C'est l'histoire de Anna Magdalena Bach, une femme qui se rend sur la tombe de sa mère, quelque part sur une île, comme elle le fait chaque année depuis 20 ans. Les critiques littéraires, bien entendu, se sont divisées sur le contenu et depuis sa parution, la tendance est plutôt à en faire l'éloge. Ils s'accordent notamment à penser que le personnage d'Anna Magdalena Bach ajouterait une nouvelle femme fascinante à la galerie qui figure au fil des œuvres de l'auteur colombien. Il est fort probable que nous profiterons de notre prochain festival littéraire, donc à Lyon, Belle Latine, en novembre, pour organiser une table sur cette démarche inédite. Voilà donc ce qu'on peut dire de ce livre qui vient de paraître. Vous pouvez l'acheter à Périquet aussi. sur Gabriel García Márquez. N'oublions pas que cette semaine, tous les mois, c'est le printemps. Ça a commencé. Et il y avait aussi le printemps des poètes. Donc nous allons vous lire quelques poèmes des écrivains, des poètes latino-américains. Et on va lire un poème qui pourrait être actuel.
De Jaime Torres Baudet, qui est un Mexicain, et qui s'appelle « Civilisation ».
Voilà, très bien.
Un homme meurt en moi toutes les fois qu'un homme meurt quelque part, assassiné par la peur et la hâte d'autres hommes. Un homme comme moi, né comme moi, parmi des espoirs et des larmes, un homme qui aspira à dépasser l'homme, sans comprendre ce que l'homme serait si tous ceux qui vivent étaient des hommes, de vrais hommes. Un homme meurt en moi toutes les fois qu'en Asie, au bord d'un fleuve, d'Afrique ou d'Amérique, ou dans le jardin d'une ville européenne, la balle tirée par un homme en tue un autre. Sa mort détruit tout ce que je pensais avoir bâti en moi sur des assises de granit. L'orgueil que j'ai ressenti d'être un homme et jusqu'au délice de savoir que deux et deux font quatre. Car tout est à nouveau remis en doute, tout à nouveau est interrogation et laisse mille questions sans réponse, à l'heure où l'homme pénètre, armes en main, dans la vie, sans défense d'autres hommes.
Oui. Alors, le même poème, nous l'avons en espagnol, c'est l'Amérique latine, c'est Jaime Torres Baudet, comme avait dit Béatrix, et voici en espagnol le même poème, Civilisation. Un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Un hombre como yo durante meses en las entrañas de una madre oculto, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas, y como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre y sal y tiempo y sueño. Un hombre que anheló ser más que un hombre, sin comprender lo que sería el hombre si cuantos viven fuesen hombres en realidad. Y su muerte deshace todo lo que pensé haber levantado en mí sobre sillares permanentes, la confianza en mis héroes, mi afición a callar bajo los pinos, el orgullo que tuve de ese hombre al oír en Platón morir a Sócrates, y hasta el sabor del agua y hasta el claro júbilo de saber que dos y dos son cuatro. Porque de nuevo todo es puesto en duda, todo se interroga de nuevo. Y deja mil preguntas sin respuesta en la hora en que el hombre penetra a mano armada en la vida indefensa de otros hombres. C'est la poésie dans notre émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons finir notre émission avec un poème d'un Argentin connu dans le monde entier aussi, qui méritait peut-être le prix Nobel, Jorge Luis Borges. Ce poème s'appelle Un instant.
Si je pouvais de nouveau vivre ma vie, dans la prochaine, je commettrai plus d'erreurs. Je serai plus bête que ce que j'ai été. En fait, je prendrai peu de choses au sérieux. Je courrai plus de risques, je voyagerai plus, je contemplerai plus de crépuscules, je grimperai plus de montagnes, je nagerai dans plus de rivières, je me rendrai dans plus d'endroits qui me sont inconnus, je mangerai plus de crème glacée et moins de fèves. J'aurai plus de problèmes réels et moins d'imaginaires. J'étais de ces personnes qui vivent sagement chaque minute de leur vie. Mais si je pouvais revenir en arrière, j'essaierais de n'avoir que de bons moments. Ne pas laisser passer le présent. J'étais de ceux qui se déplacent sans un thermomètre, un bol d'eau chaude, un parapluie et un parachute. Si je pouvais revivre ma vie, je recommencerais par me promener pieds nus, dès les premiers jours du printemps, et je continuerai jusqu'aux confins de l'automne. Je contemplerai plus d'aurores si j'avais encore une fois la vie devant moi.
Alors, le même poème en espagnol, ça donne ceci. Instantes. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto, me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. correría más riesgos, haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos, iría a más lugares a donde nunca he ido, comería más helados y menos habas, tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata cada minuto de su vida. Claro que no, que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos. No te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calesita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir beaucoup d'aspects de l'Amérique latine, même des poésies. Et merci à Béatrice qui nous a livré des infos sur notre continent. Et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.